Bonjour et nous voilà sur les ondes de Radio Galère avec quelques minutes de retard mais en force puisque aujourd'hui nous allons faire une émission exceptionnelle à double titre. Le premier titre c'était que en ce jour du 8 octobre 2024 on n'allait pas ne pas pouvoir évoquer le 7 octobre et le 8 octobre 2023. Mais il se trouve que outre cette commémoration, bien triste par ailleurs, les événements qui se sont accumulés depuis simplement 8 jours, depuis notre dernière émission hebdomadaire, sont d'une taille hors du commun du point de vue de l'histoire générale, non seulement de la Palestine, mais de l'humanité. Et puis, le deuxième facteur exceptionnel est la présence autour de nous de Pierre Kipré, notre ami Pierre Kipré, qui, vous le savez, il est déjà intervenu à l'antenne sur les ondes de Galère et pour Comaguerre, mais pour des émissions thématiques où il nous expliquait des sujets. Et là, comme il est de passage à Marseille, on a abusé de sa présence, et il s'y est presté, on la remercie, pour qu'il nous donne son point de vue sur la situation actuelle de l'Afrique en voie de décolonisation, qui est une tâche apparemment jamais achevée, mais il y a des avancées, et puis qu'il nous parle en plus particulier du pays là où il est, la Côte d'Ivoire, pour dire où on en est, et même les échos que la situation internationale sur laquelle on va un peu plus s'étendre suscite dans la population qu'il croise tous les jours en tant qu'historien. Alors Pierre Kipré, je le rappelle, est historien universitaire, spécialiste de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général. Gros contributeur à l'histoire générale de l'Afrique publié par l'UNESCO, que je salue toujours comme un ouvrage incontournable et utile dans son genre. Et ensuite, il a été ministre de l'Éducation nationale et même ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris pendant une période un petit peu délicate. Il nous en parlera peut-être. Et donc, on est très heureux de l'avoir à ce micro pour qu'il nous donne un point de vue africain très, très solide sur ce qui se passe dans notre vaste monde dans les jours qui viennent de s'écouler. Donc, 8 octobre plutôt, début, je le rappelle, 2023, de la riposte israélienne à la sortie du Hamas. Je ne m'étends pas là-dessus, on sait depuis, sort des documents tout à fait clairs, que ça n'a pas été un massacre organisé par les gens du Hamas, puisqu'en fait, on sait aussi, il y a même des témoignages israéliens, qu'une partie des prisonniers que le Hamas avait fait ont été massacrés par l'aviation israélienne, sur consigne qui font partie des mesures qu'on prend pour éviter qu'il y ait trop de prisonniers. Donc je ne reviens pas là-dessus, c'est connu. Ouais. Et puis, depuis la situation qui devait, alors dans l'esprit, si on peut pénétrer l'esprit tortueux, obscur et inquiétant du Premier ministre israélien, on peut penser que, vu ses expériences historiques précédentes, il pensait que la révolte du Hamas était réglable en quelques jours avec quelques bombardements, qui est la spécialité de l'armée israélienne. Et puis, simplement, l'histoire montre que ce n'est pas du tout le cas, que malgré la destruction de la quasi-totalité des immeubles et toutes les constructions dans la bande de Gaza, qu'il s'agisse d'hôpitaux, de mosquées, d'églises, d'écoles, tout a été détruit ou presque, la population ou ce qu'il en reste continue à survivre dans des conditions épouvantables qui méritent forcément au moins un instant d'émotion de toute la population du monde si elle prend le temps de s'arrêter là-dessus. Aucune population n'a subi aussi longtemps un traitement aussi épouvantable. Je vais donner un chiffre pour vous donner. Il a été sorti par une anthropologue libanaise qui s'occupe beaucoup de ces questions-là. Elle a dit, depuis que les Palestiniens luttent pour avoir leur État et leur indépendance, il est mort à peu près 100 000 militants palestiniens dans différentes occasions depuis 75 ans. Il en est mort 50 000 en 365 jours, rien qu'à Gaza. L'ampleur du bain de sang, elle tient dans ces deux chiffres. C'est-à-dire, les Palestiniens ont toujours su et ont toujours compris que, hélas, dans le rapport de décolonisation, celui qui veut se décoloniser paye un prix du sang extrêmement lourd. Mais qui aurait pu imaginer que le prix atteindrait le niveau où il se situe aujourd'hui à Gaza? Personne. Personne ne pouvait l'imaginer, et encore moins ne pouvait l'imaginer qu'il s'étendrait même en Cisjordanie, qui n'était pas responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 à Gaza même. Ça, c'est le contexte général. Et puis, les derniers événements survenus montrent qu'effectivement, on est face à un tournant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas maintenant de commémorer ou de rappeler cette date et l'évolution pendant cette année très très lourde et très sanglante et très sauvage, qu'aucune institution internationale, la seule qui existe vraiment, c'est l'ONU, s'est avérée totalement incapable d'arrêter le char fou qui est conduit par Netanyahou. C'est pas possible, on sait pas faire. Alors l'ONU a absolument tous les éléments de droit pour dire ce qu'il faut faire, ce qu'elle a le droit de faire au nom de toute la communauté des nations. Bon, on atteste le récent avis de la Cour internationale de justice qui, au terme de 84 pages d'investigation et de 2 ans de travaux, considère qu'effectivement, il y a bien une colonisation en cours et que cette colonisation doit cesser et que la terre doit être rendue aux Palestiniens. Ça, c'est la Cour internationale de justice, l'organe suprême du droit de l'ONU. Quand la Cour internationale de justice écrit ça et que l'ONU, dans la façon dont elle fonctionne aujourd'hui, s'avère incapable de faire respecter les décisions de son propre tribunal, l'ONU traverse à travers la crise de Gaza une crise existentielle catastrophique, très très grave, qui met en cause, il suffit de lire les gazettes internationales sous toutes les latitudes, tous les observateurs de l'actualité internationale se disent il faut mettre quelque chose à la place de l'ONU, il faut réformer les règles de prise de décision au Conseil de sécurité, il faut élargir le nombre de membres, etc. C'est un débat qui est en cours, sur lequel Comaguerre interviendra dans d'autres occasions, mais qui montre bien la faillite de l'ONU sur son enfant. Et c'est là que j'insiste, parce que c'est une façon de dire au passé, c'est-à-dire que son enfant, c'est la partition du territoire palestinien avec un État israélien et un État palestinien. Et son enfant, j'allais dire, comparaison épouvantable, son enfant était mal formé dès l'origine. Dès l'origine, quand en novembre 1947, l'Assemblée générale de l'ONU recommande, j'insiste et je souligne le terme, recommande, elle ne dit pas, je ne décide pas, je recommande qu'il y ait la création de 2 États, et quand elle donne à 45% de la population 55% du territoire, l'ONU a déjà mis le ver dans le fruit de la discorde. C'est-à-dire que la seule façon de traiter 2 États égaux et indépendants, c'était de leur donner au moins la moitié du territoire chacun. Et pas en plus faire le découpage qui a été fait, qui est un découpage inégal, puisque la côte, toute la côte méditerranéenne est pour l'un, et les collines à l'arrière sont pour l'autre, exception faite de Gaza. C'est un sujet sur lequel, j'en profite pour faire l'annonce et j'y reviendrai pas, je reviendrai demain soir dans notre émission mensuelle en parlant du problème de la maîtrise de l'eau potable, de l'eau douce sur le territoire palestinien. Il s'agit d'un problème national touchant Israël et la Palestine, mais il s'agit aussi d'un sujet international, puisqu'une bonne partie de l'eau qui coule sur le territoire de ces 2 États, appelons ça comme ça, ne vient pas de chez eux. C'est-à-dire, on est dans le cas très classique en géopolitique, c'est pas le seul, mais c'est un des plus cruels, d'une maîtrise politique collective de l'eau d'un cours d'eau qui est le seul dans une région qui est considérée par les spécialistes de l'eau comme une région aride, c'est-à-dire dans une zone où l'eau potable n'est pas suffisante, où il faut au moins l'utiliser avec une extrême parcimonie et avec une gestion extrêmement rigoureuse. Quand en fait, il y en a un, donc l'État israélien qui essaye de tout garder pour lui et de rien laisser à l'autre, effectivement, on est dans une situation de déséquilibre, j'allais dire structurel permanent, et vous savez que interdire à un homme de boire, c'est le condamner à mort. Interdire à un champ d'être cultivé et arrosé, c'est condamner à ce qu'il n'y ait plus rien à manger au bout d'un certain nombre de mois. C'est ça que ça veut dire. Il faut, rappelez-vous que, vous savez qu'il y a des militants qui font des grèves de la faim. On peut tenir longtemps en faisant des grèves de la faim. On ne peut pas durer plus de 48 heures en grève de l'eau. Donc maîtriser l'eau, c'est maîtriser la vie d'autrui. D'où la nécessité d'une gestion, c'est le thème que j'aborderai demain soir. Mais pour revenir à cette semaine un peu folle qui s'est écoulée, le principal jour a été le mercredi 1er, donc on avait fait l'émission la semaine dernière, on était le 30 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé comme événement modifiant profondément la situation politique le 1er octobre? Il s'est passé qu'effectivement l'Iran a riposté à toute une série d'actions dont il avait été victime. Alors, je ne remonte même pas à l'assassinat par Trump du général Soleimani, mais enfin, on peut dire que ça avait commencé comme ça. Avait été attaqué au printemps, avait été attaqué en d'autres occasions sur un certain nombre de ses installations militaires. Et puis, il y avait eu donc assassinat à Téhéran même, dans un local diplomatique du représentant des Palestiniens de Gaza, Ismaël Haniyeh, du Hamas. Bon. Tout ça faisait beaucoup. Tout ça faisait beaucoup, et beaucoup se disaient « Ah oui, mais finalement, l'Iran ne riposte pas, l'Iran est trop faible, l'Iran n'est pas décidé, etc. L'Iran a peur. » Je pense que ce raisonnement-là ne tient plus. L'Iran n'a pas eu peur. Simplement, la conclusion que je tire, et je la livre aussi bien à Pierre et à Habib qui sont là qu'aux auditeurs, la conclusion, c'est que l'Iran a attendu d'être en capacité de riposter pour montrer qu'elle ne se laisserait pas, l'Iran ne se laisserait pas faire. Et la capacité de riposte a été énorme, considérable, puisque selon les experts, on considère que l'Iran a tiré des missiles hypersoniques dans un nombre qui est compris selon les estimations entre 200 et 400 sur une série d'installations militaires, j'insiste là-dessus, israéliennes, en particulier sur des bases aériennes, une qui est au nord de Tel Aviv et une autre qui est dans le désert du Negev à proximité du centre atomique de Dimona. Et donc ces missiles sont arrivés à destination pour la plupart d'entre eux. Du fait de la censure de l'information sur la guerre, la censure israélienne, ils n'ont rien reconnu, mais il a circulé quand même beaucoup de vidéos et tout. Et puis Israël a été dans l'incapacité de dire qu'il y a eu des victimes civiles israéliennes. Je crois qu'il y a eu une victime israélienne dans tous ces tirs de 400 ou de 200 ou 400 missiles hypersoniques. Et donc, en fait, l'Iran a dit « Moi, je ne frappe que des objectifs militaires. Israël veut me faire la guerre. Israël fait la guerre aux Palestiniens. Je riposte par la guerre. Je ne cherche pas à tuer des civils. » Et là, il y a une espèce de présentation de la scène telle qu'elle est sous les yeux de l'opinion mondiale. C'est-à-dire que chacun d'entre vous peut se dire, est-ce que je suis pour ceci ou pour cela, pour Israël, contre Israël et tout. Il y a en fait une première image qu'il faut garder, c'est que d'un côté on a un pays qui, comme il le fait depuis 75 ans, bombarde n'importe qui, que ce soit des civils ou des militaires, sans distinction, et en le sachant parfaitement, et un pays, c'est ce qu'a fait l'Iran le 1er octobre, qui décide de viser des cibles militaires et de ne pas attaquer de cibles civiles. Là, on a deux images d'un conflit. Il y a conflit, il y a un désaccord géopolitique entre ces deux, mais il y en a un qui utilise certaines méthodes et l'autre pas. Et l'autre, il utilise certaines. Le premier utilise des méthodes qu'il a toujours utilisées. C'est pour ça que ce n'est pas l'accuser gratuitement de dire Israël tue des civils. Israël a toujours tué des civils. Ça a fait partie de sa politique d'élimination des physiques et de terroriser les populations qu'il vise ou qu'il veut décourager ou des États qu'il veut décourager. Bombarder à intervalles réguliers le Liban, ce qu'Israël n'a jamais arrêté de faire, bombarder à l'intervalle régulier la Syrie, ce qu'Israël n'a jamais arrêté de faire, ça veut bien dire pratiquer une politique terroriste, puisque de toute façon, ça ne fait pas changer les gouvernements, ça peut effectivement faire peur à la population, ça tue gratuitement des enfants, comme à Gaza, des femmes, comme à Gaza, des vieillards, y compris à Gaza, on a un nombre de nourrissons d'avant un an tués par les bombardements qui dépasse tout ce qu'on n'a jamais vu. Bon. Et donc ça, c'est une mauvaise note, j'allais dire, c'est pire qu'une mauvaise note, c'est une condamnation de la politique d'Israël telle qu'il la mène concrètement. Passons sur les discours, passons sur les effets de propagande. Il n'y a pas de droit de se... Quand on a, depuis 75 ans, bombardé des civils sans préavis, sans distinction de qualité, de race, etc., simplement parce qu'ils n'étaient pas israéliens, on ne peut pas tenir des discours sur le droit à se défendre. On a pris le droit d'attaquer en permanence. Le discours sur le droit de se défendre ne tient pas. Voilà ce que je voulais dire donc sur ces événements du 1er octobre et de la suite qui est en préparation. Alors la suite, c'est aussi, et ça a commencé dès le lendemain, c'est l'attaque du Liban. Alors c'est une vieille, j'allais dire, c'est une vieille démangeaison des sionistes, c'est de s'approprier le Liban. Il y a déjà eu plusieurs tentatives comme ça, ça n'a jamais totalement abouti. La dernière fois, ça s'est mal terminé pour l'armée israélienne, puis c'était en 2006, et donc l'intervention du Hezbollah a permis effectivement d'arrêter, si ce n'est de faire une victoire militaire, mais au moins d'arrêter l'invasion, et là, ils ont annoncé qu'ils allaient recommencer. Alors ce qu'on sait, Habib qui suit de très très près l'actualité sur les médias arabophones saura me corriger si je vais trop loin, mais que de toute façon l'armée israélienne n'arrive pas à pénétrer profondément dans le territoire libanais, que le Hezbollah s'est préparé, le Hezbollah qui n'a pas été, enfin, il a été décapité stricto sensu. Assassiner Nasrallah, c'était couper la tête. Bon, mais il n'a pas été décapité, affaibli dans ses capacités militaires.
C'est réorganisé.
Voilà, tout à fait. Et donc, il a montré qu'il était prêt et il est en capacité. Il a montré ces derniers jours, donc je juge sur cette semaine, qu'il est en capacité d'empêcher l'armée israélienne de pénétrer en profondeur dans le territoire libanais. L'armée israélienne est tellement désemparée qu'elle joue un petit jeu, je vous le signale, parce qu'on n'en parle jamais, parce qu'effectivement on ne sait pas trop quoi dire, ça fait partie des espèces d'échecs de l'ONU. Vous savez qu'il y a 10 000 soldats de ce qu'on appelle la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Alors ils sont aussi évidemment là, ils sont au sud, puisque c'est de là, il s'agit de, dans l'esprit de l'ONU, il s'agit de protéger le Liban d'une nouvelle invasion israélienne. Alors il y en a 10 000 de différentes origines, je crois que le plus gros contingent est indonésien, il y a des Chinois, enfin c'est mélangé comme toutes les forces de casque bleu. Et en fait, ce qu'est en train de faire ces deux derniers jours, c'est que les groupes, donc les commandos israéliens qui essayent de pénétrer au Liban, vont se cacher derrière les casernements de la FINUL. En disant là, on ne pourra pas nous tirer dessus, puis c'est les casques bleus, une espèce de protection contre des attaques. Ça n'ira pas plus loin parce que dès qu'ils vont sortir de cette protection de l'ONU, ils vont se soumettre à nouveau au feu du Hezbollah. Mais c'est dire qu'ils sont à court, beaucoup de cours de techniques militaires et qu'ils n'y arrivent pas. Derrière ça, il y a la volonté de grignoter une partie du territoire et il y a la volonté de dire le Hezbollah ne représente pas le Liban. C'est ça le message implicite qu'on entend dans nos radios et dans nos télévisions officielles. Le Hezbollah, c'est pas le Liban. Ben si, le Hezbollah, c'est le Liban. Le Hezbollah a des ministres. Le Hezbollah a le premier groupe parlementaire au Parlement de Beyrouth. Et le Hezbollah est constitué de citoyens libanais de longue date. Ils sont ici, donc de raconter que c'est des mercenaires à la solde d'un autre État, ça n'est pas simplement sérieux. Mais évidemment, ça, on évite de vous le dire. On évite de vous le dire. Et en fait, si le Hezbollah a pris toute la place qu'il a pris, la preuve est faite ces jours-ci, c'est parce qu'il a, lui, été en capacité de dire « Je résiste au nom du peuple libanais ». Je résiste pas simplement pour ma gloriole, je résiste parce que je fais partie de la vie politique libanaise. J'ai effectivement des porte-parole politiques, civils, qui sont pas dans l'armée. J'ai des députés, j'ai des ministres, et donc j'interviens parce que de toute façon, et l'histoire l'a prouvé, l'armée libanaise, car il y en a une, n'est pas très très fiable, elle est mal équipée, et les amis du Liban, comme la France, le Macron, les États-Unis, ont surtout évité de bien armer l'armée libanaise pour qu'elle puisse se faire défoncer à chaque occasion que les sionistes choisissaient. Bon, donc n'en parlons pas. Ce qu'il y a d'intéressant politiquement, c'est que malgré tout, l'équipe, alors, intérimaire, vous savez que les gouvernements libanais, on se moque d'eux en disant c'est pas un vrai gouvernement, où ils sont en intérim mais ils sont jamais renouvelés, jamais remplacés et tout. Il n'empêche qu'on a aujourd'hui une série de responsables, que ce soit le président de la République, que ce soit le président de l'Assemblée nationale, que ce soit le Premier ministre, quoique de confessions différentes, qui disent quand même que le Liban en a assez d'être envahi par Israël, et donc là-dessus, il y a au moins une unité qui est faite, et cette unité, elle est faite derrière le bouclier du Hezbollah. Il n'y aurait pas le bouclier du Hezbollah, chacun vaquerait à ses intérêts personnels, les sunnites d'un côté, les chiites de l'autre et tout, enfin, ce serait le désordre que les sionistes attendent. Ce n'est pas ce qui se passe, parce qu'effectivement, massivement, la population, et je pense que les élites libanaises, enfin ceux qui continuent à habiter leur pays et qui respectent leur pays et qui aiment leur pays, disent que le Hezbollah défend le Liban, et donc on est forcément avec le Hezbollah, quoi qu'on en pense par ailleurs dans notre fort intérieur. Ça, c'est bon à rappeler. Donc, résistance du Hezbollah, difficulté de l'armée israélienne pour pénétrer sur le territoire libanais. Il y a des allers-retours. Mais ce qui est nouveau, c'est que ces deux derniers jours, Habib me contredira éventuellement, c'est que le Hezbollah ressort du Liban et dit « Puisque vous êtes chez moi, je vais chez vous. Vous avez déclaré la guerre au Liban sans le faire. Bon, »
Vous bah, tapez est... Beyrouth, voilà. Nous tapons
voilà. Donc on est en guerre, donc nous, on peut rentrer sur le territoire israélien. Ce qu'ils ont fait. Donc on a une situation qui n'est pas du tout maîtrisée par l'armée israélienne et qui est surprise par la capacité de résistance du Hezbollah. Alors beaucoup d'observateurs ont dit « Oui, mais une fois qu'ils auront tiré quelques centaines de missiles, ils n'ont pas de réserve. » Alors ce serait prendre ces ces combattants pour des nigauds, parce qu'ils savaient très bien à qui ils avaient affaire.
Ça fait quand même plus de 40 ans qu'ils existent, le Hezbollah. Donc voilà. Il est bien structuré.
Donc ils avaient prévu l'opération. Alors on dit les mêmes choses, les mêmes observateurs, soi-disant neutres, disent la même chose pour les capacités iraniennes en disant « Oh, puisqu'ils ont tiré 200 ou 300 missiles hypersoniques sur Israël, ils n'en ont plus ». Alors, d'autres disent, non, ils en sont à plusieurs milliers, vous inquiétez pas, ils ont encore de quoi faire, ne cédez pas à ce genre d'informations.
Il ne faut pas oublier qu'ils ont couvert complètement le territoire israélien avec leurs fusées hypersoniques.
Tout à fait.
Ils l'ont couvert complètement.
Voilà. Alors, voilà. Si vous ajoutez à ça les réactions des Houthis yéménites, qui se paye le pardon, et aussi des missiles hypersoniques sur Tel Aviv, là aussi des installations militaires dans la périphérie de Tel Aviv, vous avez effectivement une situation militaire qui n'est pas du tout celle que les grands médias essaient de vous présenter. C'est-à-dire il s'agit d'un conflit relativement égal pour l'instant, et où, pour une fois, l'armée israélienne ne fait pas le travail toute seule, en disant « j'écrase tous les autres ». Alors, ils se contentent de se livrer, ça me fait peine de lire, à leur sport, je mets d'énormes guillemets, à leur sport habituel, je bombarde une banlieue. Ça n'avance à rien. Polytechniquement, ça n'avance à rien. Et même, ça vous met la honte au front. Vous ne savez faire que ça. C'est ça l'armée israélienne. Tuer des civils alors que sur le terrain militaire, vous n'êtes pas très très bon. Hein, voilà. Mais ça, il faudra qu'ils le portent avec toutes les conséquences politiques que ça aura inévitablement, parce que tout ce que je décris, en fait, se passe sous les yeux du monde entier.
Ouais.
Et c'est ça le changement. Parce que les centaines de milliers de Palestiniens dont parlait l'anthropologue tout à l'heure, ça s'est accumulé au fil des temps, c'était d'ici 50 là, 100 là et tout, et finalement, ça paraissait faire partie du paysage. Hein. C'était un peu douloureux, mais on vivait avec ça. Bon, il y a encore des Palestiniens qui sont morts. Alors, il y en a qui ont fait des actes de terrorisme, il y en a qui ont fait des attentats suicides et tout, mais ça rentrait dans l'actualité, ça ne prenait pas de poids. Là, ce qui s'est passé à Gaza depuis le 3 octobre 2023, c'est effectivement le spectacle des excès et de la brutalité sioniste montrée à la face du monde. Alors, je sais bien qu'il y a ici et là des censures, que toutes les images qu'on ne vous présente pas sur les télés officielles sont visibles ailleurs, que vous pouvez les voir, c'est assez facile. Il y a quand même une information, je veux dire, alternative, où des chaînes, même dans les grands pays, même en lisant les grands quotidiens des États-Unis, souvent, vous allez trouver dans le Washington Post et dans le New York Times beaucoup plus de détails sur ce qui se passe sur le terrain en Israël et en Palestine que ce que vous avez sur TF1 ou sur Antenne 2. Il faut bien s'en rendre compte.
Il n'y a rien.
Voilà, il n'y a presque rien. Et donc, parce qu'eux se posent des questions beaucoup plus importantes. Et ça m'amène un petit peu à une espèce de conclusion de mon propos. Donc, les événements sur le terrain ne sont pas du tout la fin au profit d'Israël d'un conflit qui n'est pas terminé. On est probablement à la face, au contraire, d'une accélération du camp de la résistance pour faire large. Alors, le camp de la résistance s'est quand même agrandi depuis mercredi 1er octobre de l'Iran, ce qui n'est pas rien. Le camp de la résistance, je rappelle, c'était les Houthis yéménites, le Hamas à Gaza, ensuite le Hezbollah libanais, et puis le Had-Shaabi en Irak, qui contribue maintenant beaucoup à ces actions-là. Donc, on a un front de la résistance qui est quand même solide. Et puis, quand on y ajoute l'Iran, les conditions du jeu sont transformées.
Et la Syrie, la base.
Et la Syrie est là derrière. Alors la Syrie a droit à son chapelet de bombes, comme d'habitude, elle n'est pas plus attaquée formellement que ça. Et ce qui se passe, et c'est là qu'on va aller plus au cœur des problèmes pour les jours qui viennent, c'est que il y a eu, c'est un jour de la semaine, je ne sais plus, je crois que c'est vendredi, on était le 4, je crois, vendredi, un tremblement de terre dans le sud-ouest de l'Iran. Alors un tremblement de terre, là, si vous n'êtes pas sur place, on vous fait montrer qu'il y a les sismographes qui ont enregistré des courbes, etc. Et on vous dit, il y a eu un tremblement de terre. Et puis les spécialistes, je ne suis pas spécialiste de sismographie, mais les spécialistes se sont mis sur leurs écrans, et puis ils ont dit, qu'est-ce qui se passe dans un tremblement de terre ? Ben, dans un tremblement de terre, il y a une première secousse, et puis il y a ce qu'on appelle des répliques. C'est-à-dire, le tremblement de terre, c'est pas d'une seule fois. Ça ressecoupe, on l'a vu en Syrie, il n'y a pas encore si longtemps. Et là, il se trouve que le tremblement de terre qui a eu lieu en Iran, donc vendredi, n'a pas donné lieu à des répliques. La conclusion que certains en tirent, je la livre pour ce qu'elle est, c'est qu'il y a eu un essai nucléaire souterrain en Iran.
Ouais.
Bon. Donc, ça veut dire que l'Iran aurait au moins la capacité de faire une bombe atomique. et sans doute plusieurs, parce qu'ils n'auraient pas fait cet essai pour dire on en a fait un, puis on s'arrête. Hein, ça aurait été, ça me fait rire, ça aurait été comme le premier essai du général de Gaulle. J'ai une bombe, et puis ben, je ne l'ai plus, puisque j'avais que celle-là. Elle a sauté dans le Sahara. Vous vous souvenez de cette période-là? Bon, là, ça veut dire, s'ils mettent ça sur le tapis et dans l'actualité, ça veut dire qu'ils sont prêts, ils savent les faire, et qu'ils en ont préparé d'autres. Et on sait depuis des lustres qu'ils ont des centrifugeuses, etc., qui savent enrichir l'uranium, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bon. Pourquoi ils ont fait ça? D'une part pour des raisons politiques immédiates, on le comprend, c'est-à-dire qu'ils sont menacés, ils ne veulent pas que Téhéran soit bombardé, ni les grandes villes, et puis ils veulent montrer que c'est plus possible de rester avec un pays, Israël, qui lui est toujours en train, toujours au bord de dire « je vais vous nucléariser, je vais vous vitrifier », et puis de ne pas pouvoir répondre. À partir du moment où on rentre avec deux pays, l'Iran et l'Israël, qui ont tous les deux la bombe atomique, on rentre dans un autre dispositif stratégique qui s'appelle le dispositif de la dissuasion. C'est-à-dire, si tu me fais ça, tu vas en mourir. Bon, alors réfléchis deux secondes, hein, c'est ça que ça veut dire. Et ça change totalement les données. Ça change totalement les données, c'est-à-dire, Israël ne peut plus arriver en disant « je vous vitrifie et vous disparaissez de l'espace ». Qui était en plus une position intenable vu l'étroitesse du territoire israélien. C'était pas possible qu'il n'y ait pas eu de retombées catastrophiques sur la population israélienne. Mais on sait que c'était assumé, d'ailleurs. Ça faisait partie du choix de Samson, comme ils disent. Et ils disaient « même si on sacrifie, je ne sais pas, un certain nombre de millions de citoyens israéliens, c'est pas grave, on aura montré qu'on est le plus fort ». Alors déjà, quand on est à manipuler ce genre de raisonnement, je pense qu'on est dans une situation mentale un peu préoccupante, hein, c'est-à-dire je ne suis pas à quelques millions de citoyens près, mais je montre que je suis le meilleur. C'est ou inquiétant ou infantile, mais je ne vais pas plus loin dans ma recherche de qualificatif. Voilà. Alors c'est ça que ça dit. Alors on va attendre des nouvelles, parce que c'est ce que je viens de vous dire sur la possibilité. Donc pourquoi l'Iran aurait décidé, alors qu'il a toujours dit qu'il ne voulait pas l'arme nucléaire, qu'il voulait que les conflits se règlent politiquement avec ce voisin israélien un peu agité, c'est parce qu'effectivement il est arrivé à la présidence des États-Unis un certain Trump qui a dit « les accords avec l'Iran, j'en veux plus ». Ah ! Et il a joint, j'allais dire, le geste à la parole, il a dit « j'installe l'ambassade des États-Unis à Jérusalem-Est ». Donc je piétine l'ONU. Donc je piétine les accords signés par Obama sur le nucléaire et je piétine la position de l'ONU sur l'indépendance, enfin le rattachement de Jérusalem-Est à la Palestine. Bon. Tout gouvernant responsable à Téhéran aurait dû se dire au bout de ça, bon là on a affaire à quelque chose d'inquiétant, surtout si en plus dans 3 mois le même monsieur revient à la Maison-Blanche. Donc c'est le moment où il faut mettre sur la table les cartes qu'on a dans son jeu. Parce que s'il revient, il faut qu'il comprenne bien qu'il ne devra pas faire de bêtises, et ce sera une toute autre situation que la situation dans laquelle il se trouvait, parce que quand effectivement Trump a déménagé l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem-Est, il y a eu des protestations verbales, point à la ligne. Là, avec l'Iran et la bombe atomique, ça prend un tout autre caractère, et c'est ça qui est important. Alors, ce qui risque de se passer dans les jours qui suivent, c'est une déclaration du fameux journaliste Seymour Hersh. Vous connaissez le personnage, prix Pulitzer, etc. On dit des tas de choses là-dessus. Qui a évidemment ses entrées dans ce qu'on appelle l'état profond. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans les services spéciaux, la CIA, au Pentagone, etc., lui, font des fuites, ça, hein, donc des leaks, comme on dit en anglais, lui disent à un moment donné, voilà ce qui est en train de se préparer. Et les gens qui lui disent ça ne font pas ça pour lui faire plaisir et pour sa gloriole personnelle. Ils font ça parce qu'ils pensent que c'est l'intérêt des États-Unis de faire savoir ça à un moment donné. Et quand je dis les intérêts des États-Unis, ce n'est pas l'intérêt du vieux monsieur fatigué qui est dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Ce n'est pas l'intérêt même de Blinken qui est un sioniste avéré, etc. Non, c'est les intérêts de ce qu'on appelle l'État profond. Ce n'est pas du tout un complot, mais c'est les intérêts des groupes et des institutions à l'intérieur des États-Unis qui prennent les décisions politiques importantes et qui les font appliquer ensuite par ceux qui sont élus. Donc si Seymour Hersh, dans les jours ou peut-être dans les heures qui viennent, parce que ce n'est pas impossible que ce soit dans les heures qui viennent, annonce qu'effectivement l'Iran a bien la bombe atomique, effectivement, ça veut dire que les États-Unis sont en train de lancer un message à M. Netanyahou en disant maintenant il faudrait un peu se calmer. Alors est-ce que ce message peut être compris par le personnage? Le doute est permis. Tout est permis. Mais toujours est-il que ça sera passé. Et ça sera passé pas que dans ses oreilles, parce que les oreilles de gens qui disent beaucoup de bien de Netanyahou et qui l'appuient dans toutes les circonstances. Je parlais du Premier ministre britannique, je parlais d'Emmanuel Macron, encore qu'il y a une fâcherie ces derniers jours entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou, le chancelier allemand. Enfin, tous les gens qui sont toujours d'accord avec le Bibi devraient se dire effectivement, là, il nous emmène dans un chemin dangereux. On va voir. On va voir, mais ça me permet d'introduire le fait, cette fuite organisée par les services puissants à l'intérieur de la machinerie institutionnelle des États-Unis montre que ce qui se passe de Kiev à Gaza, c'est un face-à-face militaire entre la Russie et les États-Unis. Qu'on le comprenne bien, c'est ça qui se joue, c'est pas autre chose. C'est pas... Alors ça n'enlève rien aux combattants du Hamas, aux combattants du Hezbollah, mais c'est ça, ces signes comme ça, hein, il y a une bombe atomique qui a été essayée, il y a des choses comme ça. Ça veut dire qu'effectivement on est dans une phase d'observation des deux grandes puissances militaires. Je laisse de côté la Chine qui est un peu à part dans le jeu, hein, mais il y a une phase d'observation où, après 2 ans d'intervention de la Russie sur le terrain ukrainien, la Russie, qui a été un peu une opération très légère, hein, 100 000 hommes, c'était très peu de choses par rapport aux forces accumulées en Ukraine avant 2022. La Russie a beaucoup, beaucoup appris en matière militaire, en particulier en matière de gestion de toutes les technologies de pointe, je veux dire viser une cible, contrôler le vol d'un missile hypersonique, etc. La Russie a beaucoup, beaucoup avancé. Au point que je pense que les gens sérieux, parce qu'il y a des gens sérieux qui font la guerre, peut-être pour l'éviter, ça je ne sais pas, c'est un débat philosophique dans lequel je ne rentre pas, mais les gens sérieux qui s'occupent de ces questions de guerre au Pentagone, je pense en particulier, savent qu'effectivement la Russie a énormément progressé et qu'elle a une vraie maîtrise de toutes ces techniques-là, qu'elle prouve d'ailleurs sur le terrain. Et qu'à ce niveau-là, en particulier je pense à la question des missiles hypersoniques, les États-Unis sont relativement en retard. Et donc, ça amène à réfléchir en disant, est-ce que c'est bien le moment ? Alors, je ne pense pas qu'aucun stratège des États-Unis dise, bon, maintenant, on est battu, ils sont meilleurs que nous et on n'y revient pas. Je pense que ce n'est pas possible pour les États-Unis, les penseurs des États-Unis, ce n'est pas possible de raisonner comme ça. Mais dire, pour l'instant, on n'est pas à la hauteur, bon, ce n'est donc pas le moment d'y aller. On va à l'échec. Après, on verra. On va peut-être mettre encore plusieurs centaines de milliards de dollars sur la table pour rattraper notre retard en matière de missiles hypersoniques. Mais pour l'instant, on n'est pas bon. On n'est pas bon, donc c'est surtout pas le moment d'y aller. C'est ça qui se joue. Et ça se joue en plus dans une période politique particulière, qui est cette avant-élection présidentielle, où effectivement, ni les républicains ni les démocrates sont en capacité de prendre une orientation claire par rapport à ce conflit, ce face-à-face qui est mondial, parce que, Pierre, je pense, y reviendra, ce face-à-face, il se joue aussi dans le Sahel, il se joue aussi en Afrique.
En Afrique aussi. Enfin, voilà. Donc, il se joue en Afrique.
Et voilà, il se joue en Afrique. Ouais. Donc ce face-à-face, il est en cours. La Russie est en avance. Elle a marqué des points. Elle a beaucoup progressé. Elle a bien organisé son économie, y compris son industrie de l'armement. Elle a beaucoup, beaucoup avancé, y compris dans ses relations diplomatiques, et y compris avec l'Iran. J'insiste là-dessus, car le Premier ministre russe a passé un certain nombre de jours en Iran. Donc ils ont préparé, je pense, ils se sont mis d'accord sur beaucoup de choses. Hein. Et ils vont encore se réunir. Alors attendez, c'est assez amusant, parce que je crois qu'après-demain, Poutine va rencontrer le nouveau président iranien, dans une conférence sur les cultures du monde, qui de quatrième niveau dans l'ordre de la guerre et de la diplomatie, mais parce qu'ils seront tous les deux au Turkménistan. Et en aparté de cette conférence sur les cultures du monde, il y a des tas de cultures dans le monde, il y aura une discussion sur le fond entre le président Pezeshkian et le président Poutine. Et on parlera de quoi ? On ne parlera pas de l'avenir des cultures du monde, si en toile de fond, on parlera de ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, à mon sens, de cette semaine un peu extraordinaire, c'est-à-dire que Le voile est tombé. On a bien affaire à un face-à-face militaire qui est très clair maintenant entre la Russie et ses alliés, l'Iran au premier chef, la Chine au second chef et un certain nombre d'autres, et les États-Unis qui pataugent un peu d'abord dans leur inconnue incertitude électorale, qui ne savent pas quelle sera la qualité de l'administration qui arrivera au pouvoir en janvier, hein, parce qu'on peut se poser des questions sur la qualité et de l'équipe Kamala Harris et de l'équipe Trump. On ne sait même pas ce que seraient ces équipes, quelles seraient les lumières qu'il y aurait dedans. Et donc là, il y a un flou. Et donc, effectivement, comme dit l'autre, l'histoire ne repasse pas les plats. Et Poutine, comme le président chinois, sauf qu'il y a des moments où il faut y aller et il y a des moments où on y va. Voilà ce que je voulais dire. C'était plus qu'une introduction, mais ça, je pense que ça méritait d'être situé. Et je vais donner la parole à Pierre qui va nous dire si ce conflit, effectivement, ce face-à-face, qui n'est pas encore un conflit entre les deux pays, a bien lieu dans les pays qu'il connaît bien.
Il est évident que le face-à-face, et on le remarque depuis quelques mois, le face-à-face entre les États-Unis et la Russie a déjà pour théâtre en Afrique le Sahel. Il avait déjà quelques éléments autour de la région, du moins dans la région des Grands Lacs, dans l'est de la RDC, mais il est évident que c'est surtout au niveau du Sahel que ce face-à-face est en train de se manifester. Un certain nombre de chefs d'État africains commencent à s'en émouvoir en indiquant qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord pour que la guerre par procuration se fasse aussi en Afrique. Mais est-ce qu'ils ont voix au chapitre? Il est évident qu'ils ne peuvent pas avoir voix au chapitre, puisque en leur sein, l'unité qui avait amené la création de la CEDEAO, les progrès qui avaient été réalisés par la CEDEAO au point même d'arriver à avoir institué un passeport de la CEDEAO. Cette unité s'est rapidement effritée du fait de la mauvaise gestion par la CEDEAO, la mauvaise gestion des coups d'État militaires qui ont eu lieu au Mali, au Burkina et au Niger. Les chefs d'État de la CEDEAO ont eu une mauvaise lecture en croyant qu'il s'agissait simplement d'un retour à la case départ un retour à la période des colonels, voire des adjudants. Or, il n'en était pas ainsi. C'était une réaction de remise en cause, enfin pour la remise en cause de la gestion de l'État dans ces trois pays. Et d'une manière générale, une remise en cause de l'espèce de gestion soi-disant démocratique de ces États, qui n'était pas en réalité une gestion démocratique, mais une gestion dictatoriale. Et on l'a vu au Gabon très rapidement. Je ne veux pas provoquer d'incident diplomatique, mais très rapidement, on a vu qui a fait quoi dans cette histoire du Gabon. Mais le problème dans le Sahel, c'est que les populations ont apporté leur appui aux militaires qui ont pris le pouvoir. Personnellement, j'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas de bon coup d'État. Mais le fait est que lorsque le peuple a l'impression qu'il est le dindon de la farce et que la corruption et que les trafics de drogue, les trafics en tout genre, des mines d'or, de diamants, etc., enrichissent une poignée d'individus qui n'investissent même pas dans leur pays, mais qui placent leur argent dehors, lorsque le peuple se rend compte de cela, il suffit qu'un lieutenant, ou dans le cas actuel d'un capitaine, fasse un coup qui marche tellement facilement que la population l'accompagne. Et à cela, maintenant, s'ajoute cette poudrière dont vous avez parlé tout à l'heure au Moyen-Orient, mais qui est en train de devenir une poudrière en Afrique. Et là aussi, vous avez un certain nombre de pays où il n'y a pas eu de coup d'État, mais il y a un certain nombre de pays qui regardent avec les yeux de chimène ce qui se passe au Burkina, au Mali et au Niger.
Au Togo, par exemple.
Au Togo. Il y a eu une embellie récemment au Sénégal, où on a échappé à cette dérive militaire parce que les juges ont assumé leurs responsabilités, ont dit le droit et la population a repris le chemin de la démocratie. Mais ce n'est pas encore acquis. Ce n'est pas encore acquis parce que les vieux chefs, les Macky Sall qui avaient été éliminés de la course, reviennent. Ils veulent revenir. Macky Sall, j'ai appris récemment, va conduire la liste de l'opposition. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retomber dans les mêmes travers qu'autrefois. Et si on ne fait pas attention, les coups d'État, ce n'est pas uniquement pour les autres, hein. Ça peut arriver au Sénégal. Il faut donc qu'il y ait une réflexion et un peu plus de sagesse au niveau de l'Afrique qui voudrait bien avoir une place au Conseil de sécurité, une place de membre permanent.
Ouais.
Encore faut-il s'entendre sur le nombre de personnes à admettre, le nombre de pays, et le poids que vous allez représenter. Poids démographique, c'est vrai pour le Nigeria. Poids économique, c'est plus ou moins vrai pour l'Afrique du Sud et le Nigeria. Mais en réalité, que vaudra la voix de ce pays africain ou de ces pays africains, si on en prend deux, face aux États-Unis, à l'Angleterre, à la France, à la Chine? Nous serons la cinquième roue du carrosse. Et de toute façon, ça donne quoi? On voit aujourd'hui que ce grand machin dont parlait le général de Gaulle est en train effectivement de devenir un grand machin, malgré les efforts de Guterres, malgré tous ces efforts pour donner une crédibilité à l'ONU. On voit que l'ONU est en train de perdre pied au Moyen-Orient. Et Netanyahou, le premier ministre israélien, ne se gêne pas pour insulter le secrétaire général de l'ONU
à la tribune.
Et aucune des grandes puissances membres
du Conseil de sécurité ne réagit. Dès lors que le secrétaire général de l'ONU n'est pas respecté, ça veut dire que l'ONU elle-même n'est pas respectable. Donc, il y a là quelque chose. Mais il y a en même temps des éléments d'espoir. Du moins, je veux être optimiste. Premier élément d'espoir, le groupe de ces puissances que représentent le Brésil, la Chine, la Russie, qui sont en train de représenter le contrepoids de ce réseau d'alliances que les États-Unis avaient réussi à mettre en place autour de l'OTAN. Deuxième espoir, les avancées rapides du multilatéralisme à travers le monde. Et même des pays qui, comme le nôtre, comme la Côte d'Ivoire, bon petit des Occidentaux, pour ne pas dire plus, commence à croire, ou en tout cas déclare croire au multilatéralisme. Il y a de l'espoir alors. Il y a de l'espoir que l'être humain ou les êtres humains auront la sagesse de s'arrêter au bord du gouffre pour s'asseoir et discuter. Discuter de l'avenir de la Terre. Parce qu'une bombe atomique, avec ce que chacun possède, c'est détruire la Terre 10 000 fois. Donc personne ne gagne. Personne ne gagne. Et je pense que, comme vous l'avez bien dit, l'information sur l'Iran détentrice de la bombe atomique est un message, est un appel à la sagesse humaine. Et je pense que des pays, on a encore des pays qui peuvent ramener les uns et les autres. Un pays comme la Chine, qui est maintenant à l'évidence la troisième puissance mondiale au plan militaire, et la deuxième puissance économique du monde, peut amener à un certain nombre de réflexions. De même, un certain nombre de pays qu'on pensait pouvoir être sages, mais qui aujourd'hui sont en train de perdre pied. Et c'est la France. Hélas. Trois fois hélas. Ouais. La France est en train de passer à côté d'un autre grand destin. La sortie du président Macron l'autre jour contre l'armement israélien m'a paru, du point de vue de la réflexion, très pertinente. Vous ne pouvez pas dire cesser le feu et en même temps continuer d'armer. Une question de cohérence. C'est vrai. Mais une fois que vous avez dit ça, vous faites quoi? Une fois que vous avez dit ça, vous faites quoi? Parce qu'il ne faut pas l'avoir dit pour les francophones, qui ne représentent que 10% de la Terre, des locuteurs. 10%. Vous ne représentez même pas le poids de la Chine à elle seule. et le français que nous parlons. Mais ce sont surtout les Africains qui le parlent.
Et oui.
C'est grâce aux Africains
oui.
qu'on peut parler de francophonie.
Oui, oui.
On prend les chiffres, ils sont là, ils sont clairs.
Ouais.
Or, il faut avoir une bonne lecture de la francophonie au plan de la géopolitique. Les Africains commencent petit à petit à se dire « Oui, le français, c'est notre langue. Pourquoi ?» Mais pourquoi ce serait la seule de nos langues? Pourquoi nos langues nationales ne seraient-elles pas langues de travail? Et ça commence. Ça a commencé. Donc, sur ce terrain de la linguistique, pas de problème. Sur le terrain des affaires, que représente la francophonie? La cinquième roue du carrosse dans les relations entre la France et les pays africains qui parlent français. La cinquième roue du carrosse. Puisque la France aujourd'hui ne représente plus tellement le véritable partenaire des Africains. C'est aujourd'hui des pays comme le Japon, la Chine, surtout la Chine. La Russie peut-être commence à venir petit à petit. La Turquie. Les pays d'Europe, enfin de l'Union européenne, commencent aussi à prendre quelques places. Donc, quand vous regardez les échanges entre les pays africains, chaque pays africain et le reste du monde, vous vous apercevez que la place de la France recule. Voilà donc un certain nombre de choses qu'il est important d'avoir à l'esprit et qui peuvent permettre de réévaluer un peu mieux la situation. Car cette situation, dans nos pays africains, prise une à une, la situation dans ces pays est de moins en moins intéressante. Beaucoup de jeunes continuent de fuir.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que ils ont en tout cas de moins en moins d'espoir pour demain. Espoir d'une vie matérielle meilleure. Espoir d'un équilibre des forces politiques qui soit surtout commandé par le droit et la démocratie, de manière à donner plus de place à la justice sociale. Résultat, un pays comme la Côte d'Ivoire, qu'on présente comme l'une des locomotives de la CEDEAO, est ce pays qui fournit les plus gros contingents de ceux qui partent, de ces jeunes qui partent. J'ai, en son temps, il y a quelques mois, sorti un article sur cette question. Le gouvernement en a pris ombrage. Ah oui, mais non, c'est la réalité. Je n'applaudis pas du tout à cela. Je ne veux pas voir nos enfants partir. Je ne veux pas voir nos enfants aller enrichir d'autres pays ou mourir bêtement dans la Méditerranée. Mais il faut avoir les yeux ouverts discuter entre nous, responsables des différents partis, et trouver les meilleures solutions, le meilleur discours à tenir à nos enfants pour les maintenir. C'est cela. Malheureusement, on n'a pas ce retour. Bien au contraire, le parti au pouvoir continue de faire la chasse aux opposants. Et demain, on sera étonné qu'il y ait une explosion. Or, on ne nous a pas raconté ce que nous avons vécu en 2011. Moi, personnellement, je suis resté 11 ans en exil. Donc, on ne me l'a pas raconté. On a plein d'amis, tous, quel que soit le parti politique, nous avons perdu des gens dans cette bataille. On parle de 3000 morts. Non, ce n'est pas 3000 morts. C'est plus de 40 000 morts. Bref, là encore, c'est un appel que j'aimerais bien lancer un jour. Peut-être que ceux de vos auditeurs qui sont ivoiriens et qui vous écoutent et qui sont de l'autre partie feront écho à cela. C'est un appel à la sagesse. La sagesse de nos ancêtres. Ouais. Quand ça ne va pas, on appelle tout le monde, tous les responsables de famille, et on discute pour trouver ensemble une solution. Parce que le reste du monde avance, mais le reste du monde est devenu de plus en plus dangereux. Pourquoi nos enfants viennent-ils en Europe, dans une Europe qui est en proie à des crises de plus en plus graves, qui est en proie de plus en plus à l'insécurité et qui est en proie au chômage.
Ouais, ouais.
Donc, voilà un peu l'appel que j'aimerais bien lancer à mes compatriotes qui m'écoutent. Que chacun fasse en sorte de trouver les voies et moyens pour ramener ses chefs à plus de sagesse, qu'on discute et qu'on construise ensemble. Parce que l'Afrique se construira.
Ah oui.
L'Afrique se construira. Mais pour qu'elle se construise, il faut qu'il y ait des gens. On a tout.
Il y en aura.
Il y a tout, oui, tout à fait.
Ouais.
Il y a tout. Il y a qu'à bien organiser un peu notre gestion des affaires publiques. Il y a une chanson, c'est ça que je voudrais terminer,
oui, oui.
Il y a une chanson chez nous qui dit « Quand tu vois deux personnes se battre pour un billet de 1000 francs, c'est qu'il y en a un qui veut 600 francs. » Or, si c'est 500 chacun, il n'y a pas de palabre.
Exactement. C'est ça.
Voilà
c'est
ce ça. Que je voudrais dire.
Bravo.
Merci beaucoup.
Bravo. Merci beaucoup. Pierre.
Et on peut faire écho à tes propos en disant que ceux, il y en a à la tête du gouvernement français, mais pas que, qui disent tous ces jeunes qui risquent la noyade, renvoyons-les. Mais ce n'est pas ici que ça se règle. C'est parce qu'ils n'auront plus envie de partir que ça se règle. Et donc, c'est en Afrique.
Absolument.
Et il faut enlever du milieu les dirigeants qui laissent faire ça ou qui profitent de ça ou qui rendent des comptes, qui favorisent ça. C'est ça, parce qu'autrement, on sera, nous, devant cette situation, disant, ah, qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont trop nombreux, on va, dans la situation électorale où on se trouve, être complètement démunis. Non, c'est bien de les faire partir. Non, il faut qu'ils aient pas envie de s'en aller de chez eux. Voilà. Et qu'ils trouvent là leur bonheur. Il y a les ressources, il y a les capacités intellectuelles, il manque la volonté politique. C'est aussi ça, une forme de décolonisation.
Tout à fait. Tout à fait.
Mille merci, Pierre. On était très contents de t'avoir. Ah, oui.
Merci beaucoup.
Et puis je rappelle, alors, avant qu'on finisse, que demain, c'est le 9, il y aura donc notre émission sur l'eau en Palestine, et puis qu'à 18h, sur la Canebière, il y aura une marche au flambeau de soutien aux Palestiniens liée à l'évolution de la situation.
Hier, il y avait une marche, non ? Il y avait quelque chose hier.
Je sais pas,
j'ai entendu parler qu'il y avait une manifestation.
Donc, demain soir, à 18h, il y a une marche au flambeau pour soutien au peuple palestinien. Voilà. Merci Sidi d'être venu au secours. De Comaguer. Merci beaucoup Pierre d'être venu. Okay. J'espère que tu partiras pas tout de suite quand on te reverra. Merci Habib. Okay. Donc à demain soir et à la semaine prochaine.
Je suis content de vraiment revoir Pierre. Ça me fait plaisir.